Alors, je ne vous salue pas à nouveau, Xavier Martinet, puisque vous avez déjà pris la parole, mais je vous fais cette recommandation. Attention aux faux pas.
Aux faux pas littéraires, exactement. Aux faux pas dans les récits, et surtout aux États-Unis, puisque c'est là qu'on se dirige, dans ce Brave New World of Publishing, le meilleur des mondes de l'édition, comme le dit le site Acculturated. C'est d'abord cette histoire racontée par Slate aux États-Unis, qui est celle des livres de Becky Albertalli, romancière pour jeunes adultes, histoire emblématique de ce phénomène qui touche une génération d'écrivains aux États-Unis, donc et peut-être même tout un milieu éditorial. Le deuxième roman de Becky Albertalli a été relu 12 fois avant la publication, non par son éditeur, mais par des particuliers, tous très particuliers. En fait, Becky a opté pour une pratique de plus en plus répandue aux États-Unis, ce qu'on appelle la relecture sensible, sensitivity reading, ou alors plutôt relecture délicate. La presse américaine s'y intéresse depuis la fin de l'année dernière. Les sensitivity readers, donc les lecteurs délicats, ces détecteurs de faux pas ou de bévues littéraires, sont bien des lecteurs freelance, censés repérer des fautes particulières, des lecteurs qu'on pourrait dire avertis, puisqu'issus de minorités. Auparavant, je cite les NPR, la radio américaine, un éditeur pouvait changer la structure, l'intrigue, la grammaire. Désormais, le processus a une nouvelle couche, traquer les expressions et les formules qui pourraient offenser les minorités. La pratique semble donc s'être solidement établie ces dernières années, même si c'est plutôt une nouvelle manière de nommer quelque chose qui existe déjà. Ces bêta-lecteurs, explique la radio américaine, sont comme des bêta-testeurs, un peu pour les jeux vidéo, mais au lieu de repérer les failles de programmation ou de gameplay, il s'agit de détecter les failles morales d'un récit, là où il devient potentiellement offensant pour un lecteur issu d'une minorité et qui participe aux États-Unis de ce qu'on appelle les micro-agressions. Je ne connaissais pas le terme, je l'ai appris à ce moment-là, mais il revient partout. Le livre de Becky Albertalli est donc passé au prisme des LGBTQ, des Noirs, des Coréens américains, de l'anxiété, de l'obésité et de la représentation des Juifs, entre autres, poursuit Slate. Grâce à l'intervention même conjointe de deux détectrices littéraires, Becky Albertalli s'est qu'on ne s'appelle pas « bro » dans les milieux universitaires noirs. Le phénomène touche pour l'instant surtout la littérature pour jeunesse et adolescents, vous l'aurez compris, mais c'est un réel problème pour l'industrie, dit une éditrice, elle, pour enfants, Washington Post, et ses relectures, en tout cas, ont une véritable influence, en tout cas pas négligeable. Les exemples de récits ainsi révisés s'accumulent. Tel roman mettant en scène des esclaves aux États-Unis, un tel décrivant des rites amérindiens, ou celui-ci, le récit de l'évasion d'une femme schizophrène qui va finir par commettre des meurtres en série, cliché bien sûr, avec un personnage, je cite, « dépourvu d'authenticité ou de profondeur », dit une lectrice avertie spécialisée dans les troubles psychologiques, qui explique que lorsqu'elle a recommandé de modifier le récit, elle s'est heurtée là aux protestations de l'auteur qui lui a répondu « si l'histoire n'avait pas d'antagoniste, elle ne serait pas très intéressante ». Alors, expert ou censeur, demande la NPR, le débat est vif, il est vrai, il est transatlantique même, puisqu'il a provoqué un éditorial dans le Guardian. Aux États-Unis, c'est une aide pour les auteurs, selon le Huffington Post, presque un censeur pour le Washington Post. Mais ce n'est pas de la censure que de dire « soyez plus respectueux, plus responsable et soyez conscient de la manière dont vous dépeignez les autres cultures », dit au magazine Quartz Jennifer Baker. Elle, c'est une lectrice avertie freelance qui a même créé un podcast « Minorities in Publishing ». Alors pour Becky Albertalli, l'usage est en tout cas fructueux. Outre les corrections des erreurs, les relectures par des particuliers lui ont permis d'insérer une péripétie supplémentaire en faisant accueillir par un silence réprobateur l'hypothèse d'un type vraiment relou, c'est dit dans le livre, qui tenait beaucoup à ce que l'homosexualité de sa camarade provienne du fait qu'elle avait deux mères lesbiennes. Cela permet aussi d'éviter des cas trop litigieux ou trop invraisemblables, il est vrai, comme ce roman en 2014 qui relatait une romance entre un nazi et une réfugiée juive et qui avait déchiré la communauté des romanciers, dit Newsweek. Mais derrière ce débat sur la liberté d'expression, il y a aussi un débat plus politique sur la représentation des minorités dans la littérature. Au bout du compte, seulement 14% des livres pour enfants et adolescents publiés aux États-Unis présentent des personnages non blancs, etc. Et lorsqu'ils le sont, ils sont souvent produits par des écrivains établis de la majorité sociale qui écrivent sur quelque chose dont ils n'ont pas l'expérience, écrit là l'auteur Sarah Anna Gomez sur le site The Establishment. La question du coup est toute simple, qu'en pensez-vous? Mais surtout, imaginez-vous ce système transposable en France?
Ah, déjà, il faudrait qu'ils aillent voir Portier de nuit pour des histoires d'amour qui peuvent parfois être étrange. Mais toutes les histoires d'amour ne sont-elles pas étranges, Daniel Martin? Votre sentiment sur ce nouveau fléau?
Lorsqu'on m'a donné ce thème et que le lien sur lequel je suis allé me documenter, j'étais totalement épaté. Je n'imaginais même pas que quelque chose comme ça puisse exister. Et ça m'a fait penser à une personne avec qui je parlais au début de la lecture sur tablette. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu chic, quelques personnes s'en étaient emparées, et c'est une personne qui me prouvait l'intérêt de la lecture sur tablette. Et à l'époque, on lisait beaucoup on relisait des classiques, et il était en train de relire du Zola, et il me dit: c'est formidable, parce que Zola, là, il est au marché, je peux aller vérifier en appuyant sur le mot d'un poisson, chaque poisson, je peux aller vérifier si la description de Zola est exacte. Mmh. Alors c'est nier totalement la notion même de roman, quand même. Enfin, et là, je trouve qu'on est dans cette négation totale. Enfin, c'est une privation de liberté, c'est une privation de créativité. C'est énorme, quand même, comme... Je sais pas, non, ça n'a pas l'air de vous intéresser ici.
Si, mais on vous laisse parler jusqu'au bout de votre phrase, Daniel Martin,
avant d'intervenir. Partager silencieusement mon atterrement.
J'ai parlé d'un nouveau fléau, hein, vous lançant, mais enfin bon. Laurent Nunez.
Non, j'écoutais religieusement Daniel Martin pour vérifier qu'il n'y a pas de micro-agression sur ce qu'il, dans ce qu'il disait. Non, en effet, ça nous étonne, mais parce que les mots qui viennent à l'esprit, c'est quoi? Bien-pensance, censure.
Politiquement correct.
Politiquement correct. Alors, on est déjà très surpris, parce que moi, je pensais que c'est comme le métier d'un éditeur. De relire et de voir avec son auteur les passages qui clochaient, voilà. Et j'utilise ce mot très vague, parce que ça peut être le fond comme la forme. Voilà, qu'on ait des experts ou des bêta lecteurs, ça me fait un peu peur. J'inverserai en disant des lecteurs bêta, mais parce que je trouve ça, moi ça me... Comment vous dire? On parle de micro-agression, mais alors il y a une sorte de dictature dans ce qu'en effet peut-être des communautés, ou en tout cas de ceux qui croient représenter des communautés. Parlons de ça exactement. Mais la micro-agression, on en a besoin. On a besoin d'être agressé, sinon on peut pas se défendre. On a besoin de lire lire des ouvrages où on n'est pas d'accord, où la vision du monde est différente de la nôtre. On peut pas censurer avant, en amont, en disant c'est pas possible de dire ça. Vous savez, quand je lisais cet article de Slate qui est en effet sidérant, on n'imagine pas que ça puisse exister. Je pensais à une définition de la littérature par Bachelard. Bachelard dit, il parle de l'image, mais pour la littérature c'est pareil. Il dit qu'il y a deux sortes d'images, deux sortes de livres. Il y a les livres qui résonnent et les livres qui retentissent. Quand ça résonne, c'est quand je dis ah ouais, ce livre-là, c'est exactement ce que je pense. Ça résonne. C'est-à-dire que je me retrouve dans ce livre. Ça n'a aucun intérêt. À quoi bon lire un livre où je me retrouve totalement? Je caresse dans ma tête. Mais ça flatte le lecteur, en tout cas, qui est fier que quelqu'un d'autre ait les mêmes pensées que lui. Ben voilà, c'est ce qu'il voudrait avec leur...
Ça flatte ou ça conforte.
Voilà, c'est ce que voudraient les bêta-lecteurs, supprimer tout ce qui est tout ce que eux ne pensent pas dans un livre, pour retrouver un livre où ils seraient d'accord avec tout. Moi, je préfère, et Bachelard dit, ce qui compte c'est que ça retentit. C'est qu'on lit quelque chose et on s'y attend pas du tout, ce n'est pas du tout conforme à notre schéma, à nos visions à nos pensées, quoi. Et moi, j'attends plus de la littérature qu'un retentissement, même négatif, même quelque chose qui me chagrine. Qui me donne au moins, je vous dis, le pouvoir de m'opposer. Voilà, si on n'est pas agressé, on peut pas s'opposer. Je suis très surpris par cette vision de la littérature. L'un des seuls intérêts quand même d'apprendre ça, c'est que ces faux pas littéraires, ça me rappelle quand même le recueil de Blanchot, Faux pas, qui est un recueil d'articles mémorables, qui rappelle, voilà, que la littérature, c'est aussi des faux pas.
Ah ben, tu sais, je me sens micro-agressé, parce que j'ai lu tout à l'heure, il parlait des crânes chauves.
Ah ben voilà.
Qu'est-ce qu'il a contre les crânes chauves, Éric Vuillard? Je me sens tout à fait micro-agressé tout d'un coup. Je me dis que ça fait plein de nouveaux emplois.
Le chômage étant... C'est effectivement, je trouve que c'est une vision de la société qui est absolument terrible. Vous parlez de politiquement correct, moi je parlais plus de tentatives de censure, enfin de choses comme ça. Je veux dire, tout l'intérêt...
Politiquement correct et littérairement indigent.
Oui, ouais, la façon dont vous définissez les lectures, c'est le propos même de chaque conversation, de chaque débat. Je veux dire, si on n'en ressort pas un peu transformé, un peu enrichi, quel est l'intérêt? Et l'enrichissement passe souvent par
la position
du conflit, de la réflexion, et je trouve ça terrifiant.
Xavier Martinet, des précisions, des questions?
Oui, des précisions. En fait, en lisant tous ces articles, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez indécidable dans les raisons pour lesquelles on a ce phénomène. Est-ce que c'est parce que, on le voit, on a quand même une multiplication de récits qui ont l'air remplis de clichés? Ça, c'est vrai. Il y a aussi cette question de l'expression par tous les moyens possibles d'une question sociale qui est de plus en plus prégnante aux États-Unis. Peut-être aussi, et qui en découle, l'inquiétude des éditeurs qui enjoignent à leurs écrivains peut-être de se faire relire aussi et qui... peut-être en profite pour externaliser aussi. Et puis finalement, vous le disiez aussi, il y a quelque chose de vraiment inquiétant, c'est cette logique, on pourrait presque dire anti-littéraire, où on voit qu'il y a d'un côté une volonté d'autocensure qui est manifeste chez certains écrivains, un politiquement correct aussi, en gros une négation presque de l'écrivain ou l'apprenti écrivain par lui-même, quoi.
Enfin, oui, et puis sans doute aussi, je crois que c'est le début de l'article de Slate, hein, justement, enfin cette traduction d'un article américain, il s'agit du cas d'un auteur qui a eu un problème parce que dans son livre, il y avait un passage qui avait fait polémique et que du coup, c'était beaucoup de mauvaise publicité sur tel livre et que,
exactement.
Voilà, l'article commence ouais. comme ceci, donc... se prévenir de tous les côtés, border tout, c'est la seule solution pour avoir des livres tout à fait insipides.
On a échappé à ce principe américain qui veut que dans chaque librairie, les livres soient classés par genre. Hein, on a la littérature pour femmes, la littérature homo, la littérature, etc., etc. Mm-hmm. Donc on a échappé ça dans nos librairies, fort heureusement.
Pour l'instant.
Non, bah, je pense. Enfin, c'est une question qui est posée depuis longtemps.
Ne parlons pas sur l'avenir.
Oui, alors là, vraiment, on en reparle.
Espérons, au contraire.
Bien sûr qu'on peut, on peut l'espérer. Du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, mais ce qui n'est sans doute pas très, très, très intéressant. Alors, Nunez, un dernier mot sur cette question?
Non, je suis juste étonné. Enfin, je trouve que c'est tellement différent de chez nous que je suis assez optimiste. Je suis à peu près persuadé que ça n'arrivera pas. En fait, on a du mal à imaginer comment ça pourrait arriver dans un pays comme la France où la littérature est vraiment un modèle à part sur les idées, quoi.
Mais peut-être le danger, et puis c'était pointé dans l'article cité par Xavier Martinet, c'est que ça concerne dans un premier temps de gros éditeurs de livres destinés à la jeunesse, je mets plein de guillemets, qui vont peut-être, eux, et qui sont peut-être déjà en France en train de le faire sans que nous en soyons absolument avertis, pour que surtout aucun parent ne lisant par-dessus l'épaule de son enfant ou de son adolescent puisse se dire oh là là, que c'est pas bien de dire ça sur telle catégorie de la population. Moi, je suis pas tout à fait aussi optimiste que vous.
Mais sur un côté optimiste, vous vous souvenez cette polémique qu'il y a eu à propos d'un livre pour enfants qui s'appelait À poil, qu'un homme politique avait découvert, ça en était offusqué. Il y a quand même eu une remontée assez unanime et assez forte pour dire bon.
Là, c'était juste de la bêtise. Mais c'est un groupe, la représentation qu'on donne de, un Amérindien est absolument un scandale.
Franchement, on n'a pas parlé de bêtises à propos de ce comportement, mais peut-être que c'est ça, simplement.
Bon, peut-être, moi je crois que c'est des intérêts commerciaux qui sont en jeu.
Oui. Non, je me demandais si les entreprises allemandes allaient attaquer Vuillard pour tout ce qu'ils disaient sur leur passé.
c'est le principe du silence, plutôt.
Juste une information, Arnaud, puisque vous avez parlé des Amérindiens, je vais dénoncer, c'était J.K. Rowling, donc l'auteur d'Harry Potter, qui avait publié un livre en 2016 où il était question des traditions navarros, et effectivement des lecteurs amérindiens, mais aussi des universitaires lui ont reproché sa description publiquement, donc elle a dû réviser son livre.
Ah oui, ben voyez, j'étais pas loin, et je pense qu'on y va, ou peut-être qu'on y est sans encore le savoir, Daniel.